Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, bienvenue si vous nous rejoignez, ce n'est pas tous les jours vendredi, profitez-en, dans 30 minutes, c'est la Libre Antenne, vous commentez l'actualité de votre choix et ce matin au Standard et sur nos réseaux sociaux, plusieurs d'entre vous réagissent évidemment à la libération hier soir des opposants sénégalais Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. On nous appelle de Guinée pour commenter la composition du nouveau gouvernement de transition. Et visiblement, la liste des ministres est loin de faire l'unanimité. Nous parlerons également du Tchad. On nous interpelle sur la candidature à la présidentielle du Premier ministre Succès Massra. Certains opposants voient dans cette candidature une candidature postiche pour donner l'illusion d'une élection ouverte. On aura donc l'occasion tout à l'heure de lancer le débat. La Libre Antenne, c'est à 8h40, temps universel. Et d'ici là, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, hein, vous écoutez les journaux de RFI, vous souhaitez un complément d'information, eh bien, vous nous appelez ou vous nous envoyez vos questions sur les réseaux sociaux. Et on se fait un plaisir tous les matins de vous répondre en direct. Pour commencer, on va parler d'une catastrophe environnementale. Vous avez certainement suivi cette information sur RFI. La grande barrière de corail d'Australie est victime d'un phénomène qu'on appelle processus de blanchiment massif. Bonjour Donald.
Bonjour Anne.
Bienvenue. Vous avez des questions justement sur ce phénomène.
Oui. En Australie, j'ai appris que la grande barrière de corail est à nouveau victime de blanchiment accéléré. Comment les scientifiques expliquent cette dégradation des coraux?
Alors, et dégradation des coraux. Raphaël Morand, journaliste au service environnement de RFI. Bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour Juan et bonjour à Donald.
On rappelle tout de même que la Grande Barrière de Corail est le plus grand récif corallien du monde. Il s'étend sur plus de 2300 km le long de la côte nord-est de l'Australie. Quelles sont les explications données par les scientifiques pour expliquer cette dégradation des coraux?
Alors, 2024, 2022, 2020, 2017, on en est au septième épisode de blanchissement, on dit blanchissement massif de la grande barrière de corail depuis 1998. Le phénomène est même visible depuis le ciel. Il est lié à l'augmentation de la température des océans. Il faut savoir que les mers absorbent l'excès de chaleur de l'atmosphère lié au changement climatique. Par exemple, en Australie, cet été, la température de l'eau a dépassé les 30 degrés à certains endroits. Les coraux, en fait, sont des êtres vivants recouverts d'algues et c'est elles qui donnent ces couleurs très vives, hein, bariolées aux barrières de corail, et elles se servent des coraux comme point de fixation. En échange, ces algues, eh bien, elles apportent des nutriments aux coraux pour leur croissance. On appelle ça la symbiose.
Et lorsque la température augmente trop, que se passe-t-il?
Les algues se détraquent, en fait. Elles commencent à devenir nocives pour les coraux. Du coup, ils les expulsent. Ils deviennent blancs, du coup, ces coraux. Mais ils perdent aussi tout ce que leur apporte ces algues. Une spécialiste des coraux me disait que c'était un peu comme si nous, on nous privait de nourriture en fait. Des coraux qui ont blanchi sont donc beaucoup plus fragiles, plus exposés aux maladies et leur croissance est plus lente et si ça dure trop longtemps, eh bien ils meurent. Donc plus ces épisodes se multiplient, moins les coraux peuvent se régénérer et affronter ces vagues de chaleur. On considère que 10% de la diminution de la grande barrière de corail est imputable à ce phénomène. Cela provoque aussi une diminution de la diversité génétique, de la diversité des coraux, car seules les espèces les plus résistantes traversent ces épisodes de chaleur.
Et justement, Donald a des questions également sur les conséquences de ce blanchiment massif. On vous écoute, Donald.
Ok. Quel impact ce phénomène peut-il avoir sur les espèces marines à proximité?
Et on parle de milliers d'espèces, hein,
oui,
Raphaël.
Oui, tout à fait. La Grande Barrière abrite 1500 espèces de poissons, 4000 espèces de mollusques, des tortues, des baleines, des dauphins, qui trouvent dans cet espace de la nourriture, un abri surtout. C'est un refuge pour les poissons et ça maintient les stocks de pêche. Les récifs protègent également les côtes des ouragans. C'est donc vraiment très important de les conserver. Et c'est pour cela que la Grande Barrière de Corail figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais elle est tellement dégradée qu'elle a failli être classée en péril en 2021.
Une dernière question, Donald.
Oui. Y a-t-il une solution pour remédier à ce fléau ?
Raphaël Morand.
Alors, pour éviter le blanchissement, la réponse est mondiale. Il faut lutter contre le réchauffement climatique. Hein. On le dit et on le répète, cela passe par la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, comme le CO2, le méthane. Mais le blanchissement n'est pas la seule cause de la dégradation des récifs. L'Australie s'est engagée, par exemple, à limiter la pêche dans certaines zones, à éviter les rejets polluants pour préserver la qualité de l'eau. Et aussi bien en Asie, dans les Caraïbes que dans le Pacifique, des scientifiques et des ONG ont mis au point des techniques de reproduction du corail.
Ça veut dire qu'on peut semer du corail.
Oui, en quelque sorte, comme lorsqu'on fait une bouture avec ses plantes, on peut greffer un morceau de corail dans une zone endommagée et ça repousse. Mais en fait, c'est du clonage. Le mieux pour favoriser la diversité génétique, c'est de reproduire le corail en laboratoire et ensuite de libérer les larves dans la nature. Ça marche, Juan, mais à petite échelle seulement et dans des zones très protégées.
Bon, c'est quand même une bonne nouvelle.
Tout à fait.
Voilà. Raphaël Morand, merci infiniment d'être venu dans ce studio, journaliste au service environnement de RFI. Donald, on a répondu à vos questions?
Parfait.
Parfait. Bonne journée à Lomé, alors.
Oui. Oui, bonne journée à vous aussi.
Merci beaucoup à Lomé. Il est 8h16. Si vous allez au travail, bon courage. Restez à l'écoute de RFI. On continue à donner la parole aux auditeurs. Ali, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe de l'appel sur l'actualité.
Vous êtes en Mauritanie et vous avez des questions sur les déboires de TikTok aux États-Unis.
Ok, j'ai deux questions concernant ce sujet, TikTok en
Allez-y,
Amérique.
On vous écoute.
Précisément, je vous appelle dans la région mauritanienne, dans la région de Rosso, Mauritanie.
D'accord.
Aux États-Unis, nous savons tout récemment que aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté une loi sur l'interdiction de TikTok aux États-Unis. Mmh. À cet égard, j'ai deux questions. Et j'aimerais savoir premièrement, que reprochent les États-Unis à cette application?
Alors, on va déjà répondre à cette première question. Il y a eu effectivement cette semaine ce texte adopté à une très forte majorité par la Chambre des représentants. Le projet de loi doit encore passer au Sénat. En tout cas, c'est vrai que l'avenir du réseau social chinois aux États-Unis est clairement menacé. Bonjour Ophélie Coelho.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse indépendante en géopolitique du numérique. Vous avez publié aux éditions de l'Atelier Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant. Expliquez-nous pourquoi TikTok est dans le collimateur des autorités américaines.
Alors, la proposition de loi obligerait Biden, la maison mère de TikTok, à vendre l'application dans un délai de 180 jours, faute de quoi elle serait exclue des boutiques d'applications, c'est-à-dire l'Apple Store et le Google Store. Ce que reprochent en fait les États-Unis à cette application, c'est en gros le recueil de données qui pourrait être transmis à la Chine et qui servirait donc à l'agenda chinois, à la fois dans une manipulation de l'opinion publique et donc de l'opinion politique, et de l'autre sur une connaissance en fait des utilisateurs américains. Donc ça, c'est le contexte.
Donc après, Pékin espionnerait les Américains à travers TikTok.
Oui, ce qui en fait représente un petit peu, si vous voulez, l'arroseur arrosé, puisque bon, comme on le sait, hein, les applications de réseaux sociaux majoritaires étaient jusque-là principalement américains et ne se gênaient pas eux-mêmes pour recueillir des données. Donc si vous voulez, c'est un petit peu... Quelque part, ils se réveillent un petit peu tard, puisqu'aujourd'hui, ils se retrouvent avec une application chinoise sur leur territoire, en effet, qui cumule 150 millions d'utilisateurs. Oui. Les États-Unis, c'est le premier marché pour TikTok dans le monde. Donc, en effet, ils se sont réveillés peut-être un petit peu tard sur cette thématique-là. Et ça participe en fait à ce qu'il se passe aujourd'hui en termes de guerre informationnelle entre d'un côté les États-Unis et de l'autre la Chine, avec une tentative ici des États-Unis de réguler TikTok d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que là, ce qu'ils proposent, c'est une fausse proposition en réalité, parce qu'on peut bien imaginer que Biden aura énormément de mal et refusera probablement de vendre TikTok. Ça reviendrait en fait à faire en sorte que TikTok devienne américain. Donc, il n'aurait plus...
Alors, c'est sûr qu'on voit mal, la maison mère chinoise vendre TikTok, mais en même temps, je pense que sur le marché, beaucoup seraient très intéressés pour acheter TikTok, notamment aux États-Unis. Je pense à Microsoft et d'autres qui, à mon avis, sont déjà sur les rangs. Mais en tout cas, juste pour bien préciser, parce qu'Ali disait, c'est une loi pour interdire TikTok. En fait, la loi ne dit pas clairement cela. La loi dit, vous devez vendre TikTok dans les 6 mois, et sinon, on vous interdit. C'est ça, hein. ce que dit la loi, pour être précis.
Oui. Alors l'interdiction, voilà, tout à fait. Après, l'interdiction concerne le fait de l'exclure des boutiques d'application. Il est très clair que même s'il y a toujours des possibilités d'aller à l'encontre de ça, hein, je veux dire, si vous êtes sur Android, vous pourrez toujours installer l'APK qui pourra, voilà, c'est l'application, en fait, le fichier que vous pourrez installer sur votre téléphone. Néanmoins, il est fort probable que les Américains iront tout simplement voir Instagram, voilà, le concurrent direct de TikTok aux États-Unis.
Ophélie Coelho, Ali nous disait avoir deux questions. On écoute donc sa dernière question.
Ok, pour la deuxième question, elle est la suivante. Donc, que pourrait faire TikTok pour continuer à exister sur le sol américain?
En quelques mots, Ophélie Coelho, la marge de manœuvre de TikTok aujourd'hui aux États-Unis?
La première marge de manœuvre, elle est juridique, puisqu'ils pourront tout à fait s'opposer, bien sûr, à ce texte de loi. Mmh. Après, il va y avoir de toute façon une problématique. C'est que si vraiment, à un moment donné, l'application est interdite, ça va forcément les freiner. Ça va être compliqué pour eux de se battre complètement sur ce terrain-là, en fait. Parce que même si les utilisateurs pourraient quand même éventuellement trouver un moyen d'utiliser leur application, s'il y a vraiment une interdiction et un retrait des stores, ça leur ferme énormément de portes quand même. Hein. Donc oui, ils ont des possibilités juridiques d'agir, mais si les États-Unis veulent vraiment interdire leur application sur les stores, ce sera quand même difficile pour TikTok de tenir.
Ouais. Bon, on va suivre déjà le débat au Sénat, hein, puisque pour l'instant, le projet de loi n'a été voté que par la Chambre des représentants, et au Sénat, c'est loin d'être gagné. Mais en tout cas, si le projet de loi est voté par le Sénat, Joe Biden a déjà dit qu'il promulguerait le texte, donc le feuilleton est loin d'être terminé. Ali, bonne journée donc à Rosso, en Mauritanie, et un grand merci à Ophélie Coelho, chercheuse indépendante en géopolitique du numérique. 8h22 en temps universel, dans moins de 20 minutes, la Libre Antenne. Continuez à nous appeler, vous pouvez toujours vous inscrire évidemment pour prendre la parole en direct sur RFI. Pour l'instant, vos questions, on va parler du Burundi. Bonjour Junior.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Bujumbura justement, dans la capitale burundaise. Quelles sont vos questions?
Ce dimanche dernier, l'opposant Agathe Rwasa a été écarté de la présidence de son parti, le Congrès national pour la liberté, oui, lors d'un congrès extraordinaire. À ce propos, je voudrais savoir pourquoi certains membres du parti parlent d'ingérence des autorités dans l'organisation de ce congrès.
Oui, Agathon Rwasa, écarté de la présidence du principal parti d'opposition du pays. Bonjour Azraz Dikoumana.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Journaliste au service Afrique de RFI, l'opposant donc démis de ses fonctions par des dissidents au cours d'un congrès extraordinaire. Donc il y a eu un nouveau président du parti qui a été élu. Mais il se trouve que certaines voix accusent le pouvoir de s'être ingéré dans l'organisation de ce congrès. Expliquez-nous.
Oui, Juan. En fait, hein, il donne plusieurs exemples. Il faut savoir qu'Agathon Rwasa, qui est le président et représentant légal légitime du parti CNL jusqu'ici, avait informé le ministre burundais de l'Intérieur il y a 2 semaines qu'il allait organiser samedi le 3 mars, conformément au statut de son parti, un congrès national inclusif, c'est-à-dire avec la participation de tous les dissidents qui ont été chassés et qui sont au nombre de 10 en réalité pour résoudre leurs problèmes. Mais le ministre Martin Niteretse lui a interdit formellement d'organiser cette réunion en continuant à exiger, comme il le fait depuis des mois, qu'il négocie et se réunifie d'abord avec ses dissidents.
Ouais, et il se trouve qu'une semaine plus tard, les dissidents, eux, ont pu organiser un congrès sans aucun problème. Que s'est-il passé?
Eh bien, même si officiellement le ministre refuse de reconnaître qu'il avait accordé une autorisation à ces dissidents, cela ne fait aucun doute, hein, au vu de ce que de dispositif sécuritaire qui avait été déployé pour protéger le congrès de ces dissidents qui s'est tenu à Ngozi ce dimanche. Les bus qui les ont acheminés depuis toutes les provinces du pays étaient escortés par des véhicules remplis de soldats, de policiers, d'agents des services secrets armés jusqu'aux dents, alors que d'autres forces de l'ordre avaient érigé des barrages dans toutes les provinces du pays pour empêcher les partisans d'Agathon Rwasa de se rendre à Ngozi, car ils voulaient empêcher la tenue de ce congrès comme il avait promis de le faire. Enfin, ce congrès s'est déroulé sous haute protection de l'administration et de la police qui dépendent du même ministre de l'Intérieur, et personne ne pouvait s'en approcher sans montrer patte blanche. Ceux qui ont essayé l'ont appris à leur dépens.
Voilà donc pour les raisons qui font dire donc à plusieurs personnes que ce congrès était un peu organisé, en tout cas appuyé par le pouvoir burundais. Junior, une dernière question.
Actuellement, Agathon Rwasa peut-il continuer à exercer ses activités politiques, de quelle manière ?
Alors, peut-il continuer à ses activités politiques ? Excusez-moi, j'étais un peu perdu dans les questions du Nord, j'avais mal entendu.
Oui, alors officiellement, Agathon Rwasa est encore le président du CNL reconnu jusqu'à ce que le ministre de l'Intérieur reçoive les conclusions du congrès organisé par les dissidents ce dimanche et prenne acte officiellement des décisions qui ont été prises, c'est-à-dire notamment la mise en place d'un nouveau président, hein, un certain Nestor Guirukushaka, qui à partir de ce moment-là, lorsqu'il aura prise d'acte, eh bien, va remplacer l'opposant historique aux yeux du gouvernement burundais.
En quelques mots, pour être clair, Ezra Zikumana, la marge de manœuvre d'Agathon Rwasa, elle est très limitée.
Ah oui, très très limité. Il faut savoir en fait que Agathon Rwasa déjà était suspendu de toute activité depuis 9 mois. Le ministre exigeait d'abord qu'il y ait un accord avec les dissidents. Tout le monde donc s'attend à ce que le ministre maintenant accepte, hein, tout le ministre adouble la nouvelle direction du CNL. Et à partir de ce moment, suivant la loi burundaise, Agathon Rwasa ne pourra plus exercer d'activité politique au Burundi tant qu'il n'a pas un nouveau parti. Et nous sommes à une année des élections législatives au Burundi. Enfin, il ne faut pas s'attendre à ce que les milliers de partisans d'Agathon Rwasa manifestent, car ils ont été depuis des années la cible de vagues successives de répression sanglante. Des centaines de militants du CNL ont été tués ou portés disparus. Des millions ont été arrêtés et croupissent en prison ou ont fui en exil selon les ONG nationales et internationales. Et ceux qui restent, Rouen, eh bien ceux qui restent sont terrorisés et ne vont pas bouger.
Merci pour ce décryptage, Ezra Zikumana Junior. On a répondu à vos questions.
Oui, exactement, parfaitement.
Eh bien, tant mieux. Bonne journée à Bujumbura. Bon, je m'attendais.
Merci à vous aussi.
Merci, Junior. Allez, il nous reste 3 minutes. Une dernière question ce matin. Ibrahima, bonjour.
Bonjour, Anne, bonjour à tous.
Vous avez des questions concernant votre pays, la Guinée, et notamment des questions sur le nouveau gouvernement de transition.
Oui, bien sûr. Alors, le premier ministre guinéen a présenté son nouveau gouvernement composé de nombreux membres de l'administration. Pourquoi Baoudi a-t-il choisi des membres de l'administration plutôt que de piger dans la classe politique ?
Oui, la liste des membres du gouvernement enfin rendue publique. Hein. C'est vrai que cela faisait 3 semaines que la Guinée attendait de connaître la nouvelle équipe gouvernementale depuis que le général Doumbouya a décidé de renvoyer l'ensemble des ministres. Bonjour, cabinet Fofana.
Bonjour Juan et bonjour à Ibrahima.
Directeur de l'Association guinéenne de sciences politiques, 29 ministres, plus de la moitié sont des inconnus et comme le disait Ibrahima, nombreux sont les ministres issus de l'administration.
Oui, ils proviennent tous de l'administration, hein. Ils sont, disons, une bonne dizaine qui proviennent... je dirais à part les ministres qui étaient là déjà, ils sont tous pratiquement issus de l'administration, de la haute administration. À la question de savoir pourquoi M. Baoudi n'a pas fait le choix de...
Bah de prendre tout simplement des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques.
Oui, la réponse, elle est toute simple. Hein. C'est tout simplement parce que il n'y avait pas la volonté pour le CNRD de s'ouvrir et de faire de faire en sorte qu'il y ait des acteurs politiques à l'intérieur. Justement, c'est un peu ce qui a surpris du monde, puisque Baoudi, qui est un acteur politique de haut rang, avec un parcours extrêmement important, on a pensé qu'en le nommant, effectivement, ouverture serait faite vers la classe politique, ce qui n'a pas été le cas.
Et est-ce que ça veut dire, cabinet Fofana, que finalement, le Premier ministre Baoudi n'a pas eu son mot à dire dans la composition du gouvernement ? Et que ce sont les militaires, et pour ne pas le citer, le général Doumbouya qui a formé le gouvernement.
Oui, absolument. Quand on regarde un peu l'ossature du gouvernement, on se rend bien évidemment compte que sa voix n'a pas essentiellement compté. Et dans la pratique, les premiers, généralement, sous les tropiques, et spécifiquement en Guinée, ils sont nommés au même moment que les ministres qu'ils dirigent, et c'est encore plus prégnant souvent quand c'est des régimes militaires.
Ouais. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Hein. Je vois sur nos réseaux sociaux que plusieurs Guinéens sont, pour ainsi dire, vent debout quand ils ont appris la composition de ce nouveau gouvernement. Merci infiniment, cabinet Fofana, directeur de l'Association guinéenne de sciences politiques. Ibrahima, bonne journée à Conakry. Merci de nous écouter. Je sais que vous êtes nombreux, fidèles dans la capitale guinéenne. Il est 8h30 en temps universel.